Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver chaque samedi matin, une heure de direct pour parler de vos animaux. Vous pouvez à tout moment intervenir dans cette émission en appelant le 0826 300 300. Alors au sommaire aujourd'hui, vous dites parfois que votre chien est le patron à la maison. Il n'en fait qu'à sa tête, il saute sur vos invités, il aboie à tout bout de champ ou n'hésite pas à chiper tout ce qui peut traîner. Vous ne savez pas comment remédier à ces comportements désagréables? Appelez-nous pour nous raconter ces petits travers que vous aimeriez changer et nous espérons pouvoir vous aider. Notre séquence Faune sauvage sera consacrée à une histoire incroyable, celle de quatre tigres qui vivent depuis 2007, oui, vous avez bien entendu, dans un wagon de train abandonné. Une association française se mobilise pour leur offrir une nouvelle vie qui aura bien sûr le goût de la liberté. Enfin, dans C'est votre histoire, une écrivaine passionnée des chats viendra nous raconter en quoi les chats ont tant à nous apprendre. Ils sont une source de sagesse et de bien-être tellement réconfortante, surtout en ces temps difficiles. 0826 300 300 si vous souhaitez réagir, intervenir et parler à mes invités ou à moi-même. N'hésitez pas à nous appeler au standard d'ici quelques instants.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et dans vos animaux et vous, on va parler ce matin de ces chiens qui sont véritablement les patrons à la maison. C'est vrai qu'on les adore, mais lorsque leurs comportements deviennent déviants, ça peut être un problème pour l'ensemble de la famille. Bonjour Chloé Fesch.
Bonjour.
Merci beaucoup Chloé. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Chloé, on vous connaît bien dans cette émission. Vous êtes éducatrice canine. Vous intervenez dans la France entière avec vos équipes pour justement aider les maîtres qui ont des difficultés de comportement avec leurs chiens. Est-ce fréquent ces troubles du comportement qui, au final, sont un souci au quotidien dans la vie des maîtres?
Oui, bah nous c'est un petit peu le corps de notre métier, hein. La plupart du temps les maîtres viennent parce que justement ça ne se passe pas bien, ils n'arrivent pas à comprendre leur animal et à trouver des solutions pour que ça se passe mieux, donc c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, oui.
Est-ce qu'il y a toujours une solution à leur proposer?
Alors oui, il y a toujours une solution, ensuite la question c'est est-ce que cette solution on va pouvoir la mettre en place et ça va être accessible, mais oui, à tout problème il y a une solution.
Parce qu'on le sait, parfois des gens sont contraints ou se sentent contraints d'abandonner leur animal parce que justement, ils ne trouvent pas de solution. Peut-être est-il important de rappeler, Chloé, en préambule, que finalement, il est important d'éduquer son animal dès qu'on en fait l'acquisition, qu'il soit adopté dans une association ou que ce soit un animal acheté.
Oui, c'est très important et même avant ça, le choix du chien, le choix de l'individu qu'on va adopter est vraiment essentiel parce que l'une des pires choses qui peut arriver, j'ai envie de dire, c'est l'incompatibilité maître-chien. Mmh. Quand on a un chien qui a des besoins et que ces besoins-là, on ne peut pas y répondre parce que on ne peut pas pour des raisons personnelles ou physiques ou quoi que ce soit, ça devient vite très compliqué. Donc le choix du chien, trouver le chien qui est le plus adapté à nous, à nos attentes, à notre mode de vie, c'est déjà une des clés importantes. Et après, bien sûr, l'éduquer, apprendre à comprendre comment il fonctionne, etc., c'est également le deuxième levier essentiel.
C'est bien de rappeler effectivement tout cela. Il ne faut pas se laisser emporter par un coup de cœur qui ne serait pas vraiment une action réfléchie parce qu'on s'engage pour une bonne dizaine d'années, en tout cas quand on prend un animal de compagnie. Et ne pas non plus se laisser embarquer par des effets de mode. Il y a des races que l'on sait particulièrement à la mode, notamment chez les chiens. Je pense au berger australien, qui est un chien absolument magnifique, qui fait craquer, mais qui n'est pas forcément compatible avec tous les modes de vie.
Tout à fait, à 100% d'accord.
Alors, on va donner la parole à une première auditrice qui a composé le numéro du standard de Sud Radio, le 0826 300 300, c'est Adèle. Bonjour Adèle.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir et de m'aider, parce que c'est vrai que...
C'est vous aussi le chien et le patron à la maison, Adèle?
Alors, il est avec les humains, ça va, il n'y a pas de souci. Ce chien a 7 ans, donc je l'ai eu tout petit bébé à deux mois.
Oui.
Bon, c'est vrai que j'étais derrière un divorce, donc c'était vraiment mon petit bébé, mon câlin, mon machin, enfin bon, tout ce que
bien
vous
sûr,
voulez.
Bien sûr, on voit bien. Comment s'appelle-t-il?
Jag, J-A-G,
Jag. D'accord, Jag.
Et très vite, je l'ai justement emmené dans un centre de justement pour qu'ils soient avec d'autres chiens. Vous savez, vous vous promenez, on est en laisse, on leur demande obéissance. Enfin, voilà.
Un centre et d'éducation.
Voilà, de l'éducation. Et donc, c'est à ce moment-là que par deux fois,
oui,
mon chien s'est fait mordre par un petit chiot, deux petits chiots, enfin, à deux mois ou trois mois d'intervalle, il s'est fait mordre.
D'accord. Et lui-même était chiot, si j'ai bien compris.
Il avait quasi un an.
D'accord.
Il avait quasi un an, voilà. Mmh. Et bon, point, c'est tout. Après, les choses vont bien, j'emmène mon chien partout, je suis près d'une plage, il va nager, enfin bon, bref, une vie idyllique avec mon chien et tout. Et un soir, donc il a à ce moment-là 3 ans, j'ouvre mon portail et je vois le chien sortir comme une bombe,
oui,
et se jeter sur un petit chien.
Aïe.
Alors, bien sûr, la maîtresse, enfin bon, tout un tas de problèmes.
Ben oui, forcément.
J'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Sauf que c'était pas un chien, c'est un berger allemand, ça obéit. Enfin, je veux dire, il m'a jamais fait de ce genre de choses. Et puis, ma vie a changé. J'ai eu des travaux. Il s'est retrouvé dans une habitation sans son jardin. Enfin, il y a eu beaucoup de modifications dans sa vie aussi.
Oui.
Puisqu'il m'a fait aussi une maladie de peau.
D'accord.
Qui s'est guéri maintenant que je suis revenue chez moi.
Une maladie de peau qui est, selon vous, un problème de stress, de lié
oui
au changement de vie?
Non, oui et non, parce que au bout d'un moment, au bout de 4 ou 5 visites de véto et de changement de véto, j'ai fini par savoir que c'était une bactérie interne. Qui provoquait ses envies de se gratter, il se grattait au sang et s'arrachait la peau, très dramatique. Avec des antibiotiques, j'ai réussi au bout d'un moment à le soigner, mais ça revenait. Et là, depuis, ça fait un an que je suis revenue chez moi.
Oui.
Et l'autre fois, ça, j'ai vu des petits boutons, j'ai dit oh là là, ça recommence.
Oui.
Et puis de lui-même, ça s'est soigné, il s'est pas gratté.
D'accord.
Donc je pense que l'équilibre, il a retrouvé un certain équilibre dans la maison. Donc
okay.
Voilà.
Mais a-t-il alors, puisque aujourd'hui on parle justement des problèmes de comportement, a-t-il à d'autres reprises agressé d'autres chiens,
voilà,
ou c'était une exception?
Non. Une autre fois, il était en longe et il a été surpris par un petit chien. Il est parti comme une bombe. Il m'a refait la même chose au jour d'aujourd'hui.
Toujours des petits chiens, en fait.
Ah oui, c'est toujours des petits chiens. Là, moi, je suis dans un jardin. Il a des petits endroits où il peut voir ce qui se passe. S'il voit des petits chiens, il aboie énormément.
D'accord.
Il se hérisse. Il est pas bien. Il est pas bien.
Et les gros?
Oui, il fait 45 kilos.
Non, donc, je veux dire, et les gros chiens, est-ce qu'il réagit quand il voit un gros chien,
non,
ou est-ce qu'il fait un focus sur les petits?
Sur les gros chiens, si le gros chien ne dit rien, il les ignore.
D'accord.
Si le gros chien a la moindre agressivité, par exemple un chien derrière un portail ou un machin comme ça, là, ça part en cacahuète.
D'accord.
Voilà. Donc, au fil du temps, bah, j'ai fini par arrêter de le promener parce que je me suis retrouvée 2 fois à plat ventre par terre.
Eh oui, c'est sûr que s'il fait 45 kilos...
Voilà. Il faut... Et puis j'ai eu peur. Moi, maintenant, j'ai eu peur. Voilà.
Sûr.
Donc, il faut vraiment le tenir sur ses 2 pattes arrière. Et là, il n'y a pas de souci. Mais du coup, eh bien, j'ai un petit jeune que je paye régulièrement et qui vient me faire faire des balades à mon toutounet.
D'accord.
Ça se passe très bien. Mais bon, c'était pas la vie que voilà, je
c'est pas comme ça que vous imaginiez les choses.
Ah ben non.
Alors
non,
on va demander on va demander l'avis de Chloé qui était éducatrice canine. Chloé, qu'est-ce que l'on peut dire à Adèle par rapport au comportement de Jacques?
Alors déjà, ce qui est assez décrit et assez intéressant et qui peut faire écho d'ailleurs aux auditeurs, c'est d'éviter absolument de rentrer dans un cercle vicieux. En fait, qui serait que voilà, j'ai un souci avec mon chien, je vais chercher à éviter ce problème. Donc bah, là, la conséquence très souvent, c'est je vais moins le sortir, je vais moins être confrontée à cet environnement. Et alors en fait, d'un côté, c'est une bonne chose parce qu'à chaque fois que le chien est confronté à cette situation où il va être agressif, entre guillemets, où il va réagir aux autres chiens, on va estimer qu'à chaque fois, ce comportement va se renforcer. Donc il va être de plus en plus visible et que ça va vraiment s'augmenter. Donc ça, c'est bien. Par contre, il ne faut pas rentrer dans l'extrême qui est il ne va plus rencontrer d'autres chiens.
Mmh.
Parce que là, on rentre dans un lieu où l'effet va être le même, c'est-à-dire que ça va être aussi de pire en pire parce qu'il va en manquer de ces stimulations.
Oui.
Donc la solution, en fait, elle va résider dans le fait, quand on a un chien d'ailleurs, de façon générale, de régulièrement le socialiser. Donc régulièrement, on doit pouvoir l'amener à être en contact
en liberté avec d'autres chiens. Et ça, des fois, c'est délicat parce qu'on ne sait pas comment faire, on n'a pas forcément les chiens, etc.
Oui, puis on a peur que ça se passe mal, en fait.
Et voilà. Et tous les chiens ne sont pas faits pour s'entendre, c'est-à-dire que les chiens ont un certain niveau de compréhension aux autres en fonction de leur socialisation, c'est plus ou moins évolué. Et le maître aussi a une connaissance à avoir sur son chien, savoir s'il est OK, s'il n'est pas OK. Et ça, bah, des fois, on ne sait pas, donc on fait des erreurs. Mm-hmm. Donc l'idéal, c'est vraiment quand on doit mettre deux chiens ensemble, si on veut être sûr que ça se passe bien, dans la mesure du possible, c'est vraiment en liberté, plutôt des sexes opposés, mâle-femelle, le même gabarit et en mouvement. C'est-à-dire, on ne met pas de jeu autour, on ne met pas de nourriture.
Et dans un endroit sécurisé, évidemment.
Exactement. Et ça, voilà, c'est vraiment un peu le protocole de base. Maintenant, si on a un souci, c'est-à-dire si notre chien il réagit aux autres chiens difficilement, il faut vraiment essayer de revenir sur cette socialisation. Moi, j'ai tendance à dire que le langage canin, c'est comme quand nous, on parle une langue étrangère. Plus on pratique, plus on est doué. Eh ben, votre chien, c'est un peu pareil. Donc là, faut casser la vapeur. L'idéal, ce serait de faire appel à un éducateur qui va déjà reprendre toutes les bases éducatives de votre chien avec vous pour que ce soit plus facile de les gérer et que vous ayez vraiment une relation, une connexion, même dans les moments où visuellement il y a un chien en face, même si ce chien en face réagirait, par exemple. Donc là, déjà, que, ben voilà, vous fassiez plus de drapeau, que vous retrouviez un contrôle et du coup une confiance dans la situation. Ça, c'est vraiment la première étape urgente. C'est, avec les bases éducatives qu'on arrive à ramener cette entente maître chien dans toutes les situations, au moins en laisse. Mmh. Après, le second travail, ce sera en effet de mettre en place des protocoles de rencontre entre chiens, mais avec vraiment quelque chose d'adapté. Donc, bah, au début, ça va pas être avec des petits chiens qui vont aboyer comme des fifous. On va plutôt, voilà, vraiment réfléchir à une entente qui se passera bien. On peut sécuriser au maximum la rencontre quand vous faites appel à un éducateur. Normalement, ça, il est censé le faire. Et petit à petit, vous allez réapprendre justement à communiquer avec votre chien, à comprendre quand c'est OK, à comprendre quand ça l'est pas. Et surtout, quand ça ne sera pas OK, vous ne pourrez pas le lâcher avec ce chien-là. Vous allez réussir quand même à avoir un contrôle éducatif sur lui. Mmh. Et il le vivra bien. Il faut que ce soit positif. Donc, c'est vraiment cette solution qu'il va falloir trouver. C'est le mieux, vu qu'il y a quand même beaucoup d'étapes et que voilà, c'est quelque chose qui se travaille sur plusieurs.
On ne peut pas le faire tout seul, en gros, si je comprends ce que vous dites, Chloé. Bah, il faut que Adèle se fasse aider par un professionnel, quelqu'un de sérieux. Hein, attention, parce que il y a aussi beaucoup de gens pas très sérieux dans ce domaine, il faut le dire.
Faut
bien choisir pour éviter les erreurs qui aggraveraient la situation.
Oui, et moi, je le recommande vraiment de faire appel à quelqu'un parce qu'il y a aussi un élément qui est tout à fait humain, c'est le stress. Et donc, on va anticiper ces situations, on va stresser. Mm-hmm. Et en fait, tout ça, le chien va le ressentir. Pour le coup, j'ai un berger allemand aussi. Je sais que c'est très focus sur si je suis irritée, elle le ressent. Si je suis calme, elle le ressent. Et ça, l'émotion, malheureusement, c'est difficile à contrôler.
Bien sûr.
Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui nous aide, c'est quand même hyper rassurant pour l'humain et ça a un impact aussi sur la solution. Donc, c'est des fois plus subtil que juste une technique. Le fait d'avoir quelqu'un, c'est aussi quelque chose qui émotionnellement va aider et va contribuer à la solution.
Voilà, Adèle. Essayez de mettre en application les préconisations expliquées par Chloé, parce que vous allez voir, vous allez être surprise par la compréhension de votre chien avec les informations qu'on va lui donner et les progrès qu'il va réaliser. Merci de votre appel, Adèle.
Oui, j'aurais aimé vous dire quelque chose.
Je vous en prie, rapidement, parce qu'on a Richard
parole. J'ai fait appel déjà à 3 comportementalistes.
Oui.
Les 2 premiers n'ont fait que des sottises. Et le 3e, c'est bien, mais il ne veut pas prendre mon chien. Donc, je suis à la recherche, justement, de gens comme ça. Et je ne sais pas où les trouver.
Alors, écoutez, elle ne va pas oser le faire, mais moi, je me permets de le faire. Vous pouvez vous rendre sur le site de Chloé Fesch. Vous verrez, elle travaille dans la France entière, où elle vous conseillera. Son site s'appelle Cani d'élite. Cani d'élite. Voilà, c'était le petit conseil du jour.
Merci, Natacha.
Merci à vous, Adèle. Allez, on va maintenant donner la parole à Richard. Bonjour, Richard.
Bonjour.
Alors, Richard, j'ai cru comprendre que vous aviez 3 bergers australiens.
Tout à fait.
Racontez-nous ce qui se passe chez vous.
Alors, j'ai donc 3 bergers australiens, un mâle, 2 femelles. Donc, ils sont adorables, super gentils, tout ça. Quand je reçois quand on pouvait recevoir du monde, on va dire, parce que ça remonte un petit peu de temps.
Oui, on peut encore recevoir, il ne faut pas être plus de 6, on a bien compris la règle.
Oui. Et donc, par exemple, les gens, juste en se garant devant la maison, on savait que les gens arrivaient parce que mes chiens, on voyait leur activité était un peu plus comme s'ils étaient un petit peu énervés.
D'accord.
Et commençaient un petit peu à aboyer quand les gens arrivaient dans la maison.
D'accord.
Et tant que les invités viennent pas voir les chiens pour leur dire bonjour, les chiens, j'arrive pas à les tenir. Ils n'arrêtent pas d'aboyer, ils sont très énervés, genre « et nous, on veut nous dire bonjour ». Alors moi,
ils sont accueillants, ouais, mais trop, en fait.
Un peu trop. Alors moi, j'ai la chance, juste à un coup de regard, mais mes chiens, ils ont tendance à se calmer, mais quand c'est mes enfants ou ma femme, ben, il faut un peu hausser le ton pour qu'ils se calment.
Mm-hmm. Voilà. Okay. Alors, Chloé, comment faire avec des chiens accueillants? En plus, ils sont trois, donc ils doivent bien s'exciter les uns les autres.
Exactement. Alors c'est vraiment le premier point que j'allais soulever, c'est que c'est forcément beaucoup plus compliqué quand on en a trois que quand on n'en a qu'un seul, parce qu'il y a un effet de groupe, hein, c'est un peu comme les enfants, hein, ils sont plus facilement influençables à trois qu'en solo. Donc, c'est pas du tout impossible, mais voilà, il y a cette particularité qui fait que, dans l'idéal, il faudrait déjà les travailler un par un, et puis ensuite par deux, et ensuite par trois, pour que vraiment les choses soient bien établies. Et dans ce genre de problème, moi, la solution que je recommande, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce que je voudrais que mon chien fasse à la place. En fait, très souvent, on se focalise sur ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. On veut pas qu'il aboie, on veut pas qu'il s'excite. Mais au final, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse ? Moi, par exemple, donc j'ai deux chiens à titre personnel. Mes chiens, j'ai établi un protocole. Quand quelqu'un arrive à la maison, le protocole, c'est d'aller dans leur panier et en fait, ils sont renforcés dans leur panier. Donc, au début, c'était vraiment sans que personne arrive.
Alors, il faut expliquer ce que veut dire renforcer, je pense, Chloé.
Tout à fait. Alors, renforcer, c'est vraiment d'amener quelque chose que le chien va apprécier. Et finalement, il va se dire, à chaque fois que je fais ça, j'ai ce truc que j'apprécie. Donc, ça va m'amener à le faire encore plus. C'est un peu comme pour nous, si je vous dis, à chaque fois que vous me touchez l'épaule droite, je vous donne un billet de 500 €, vous allez avoir tendance à... je vais vous renforcer sur le
ça
fait de toucher
sûr.
Mon épaule droite.
Voilà. C'est un très bon exemple. Donc, là, je crois que tout le monde a compris.
Voilà, c'est exactement ça. L'avantage, c'est que sur le chien, on n'est pas obligé de payer à coup de billets de 500 €. Mmh. Donc, on peut utiliser d'autres renforçateurs. Ça s'appelle comme ça. Donc, ça peut être des friandises, ça peut être des jouets. Ça dépend de ce que son
ça
chien aime.
Ça coûte moins cher.
Plus souvent, ça va me coûter moins cher.
Oui. 500 €, exactement. Donc, l'avantage, souvent, c'est d'utiliser des friandises. Et moi, dans ce cas-là, un conseil très pratique, c'est, alors, je ne sais pas comment c'est disposé, comment c'est aménagé, s'ils sont dans le jardin, s'ils sont dans la maison.
Oui, ils sont dans le jardin,
ils sont dans le jardin, donc ils ont accès directement aux gens, ils vont tourner autour d'eux, ou ils sont dans une partie qui n'est pas clôturée.
Non, ils sont, si vous voulez, j'ai la partie arrière de la maison qui est clôturée, donc ils sont à l'arrière. Mais bon, quand les gens ils rentrent dans le salon ou quand on va manger dehors en compagnie des chiens, là, ils s'agglutinent soit vers la fenêtre ou soit vers les gens, quoi.
D'accord. Donc il y a un petit côté frustration parce qu'ils n'ont pas accès à ça et du coup ça les frustre. Donc l'idéal ce serait vraiment de prévoir un pot, mais alors de friandises, mais très 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 appétantes. On va vraiment miser sur le haut du panier en termes de qualité. Donc des choses un peu humides, qui ont beaucoup d'odeur, voire même qu'on va mettre dans un tupperware, ce qui fait que l'odeur va être bien concentrée. Et quand les gens vont arriver, on va ouvrir cette boîte magique avec vraiment l'odeur qui va exploser. On va imaginer comme un champignon d'odeur au-dessus qui va faire oh le chien va se dire qu'est-ce que c'est là, il y a la cantine a l'air intéressante. Et ça on va le jeter dans le jardin, on va l'éparpiller dans le jardin. En fait, on va les forcer à rentrer en olfaction, donc à se mettre à renifler pour chercher la nourriture. D'accord. Ça va avoir un effet très important parce que quand un chien va se mettre à renifler comme ça, physiologiquement, il va se calmer un petit peu, son rythme cardiaque va baisser un petit peu, donc c'est très intéressant. Et puis c'est surtout qu'en termes éducatifs, il va se dire, ok, y a quelqu'un, mais en fait, y a surtout la super bouffe que j'ai cuite à ce moment-là, et puis limite, je préfère ça.
Ouais, c'est ça, c'est plus intéressant que les invités qui arrivent, on a bien compris.
Et voilà. En fait, les invités, ça va valoir peut-être 100 € d'un point de vue canin, mais alors le tupperware plein de nourriture qu'il aura qu'à ce moment-là, c'est le million d'euros, quoi. Donc il va vraiment se défrustrer pour partir sur ça.
Bon, Richard,
et donc il faut que j'en jette 3 dans le jardin, quoi, en fin de compte.
Alors l'idéal, c'est au début, on va vraiment amener vraiment beaucoup de quantité. Donc on va prendre une bonne poignée, puis on va en dispatcher bien partout pour que le chien aussi se dise pas j'ai mangé mes 3 croquettes, puis je retourne aboyer. Il faut vraiment que ça devienne quelque chose d'assez intéressant.
Et il faut que ce soit systématique, hein, j'imagine bien.
Voilà, mais ça, c'est un peu en urgence. Après, en parallèle, on va réfléchir à vraiment une indication, donc quelque chose qu'on va apprendre au chien, comme aller au panier ou comme faire n'importe quoi d'autre. Et ce sera ça qu'on demandera au chien à ce moment-là. Mais il faut qu'on l'apprenne. On ne peut pas juste se dire, si on n'a pas appris au chien, par exemple, à arrêter d'aboyer dans un protocole de travail, il comprend juste qu'on n'est pas content, qu'il faut peut-être arrêter, mais ce n'est pas bien clair. Mais donc, tout doit bien être programmé avant. Et disons que voilà, le truc des friandises, ça va être c'est très facile à mettre en place, on ne prend pas de risque et on éteint le comportement assez facilement quand on fait ça. On ne lui apprend pas grand-chose, mais on est vraiment en train de changer son émotion et ça, c'est déjà bien.
Et après, on peut passer à l'éducation. Merci Richard, exactement. Vous mettez ça en application et puis vous nous rappelez dans quelques semaines pour nous raconter comment ça s'est passé.
Okay,
je compte sur vous. Merci à vous. Excellent week-end, Richard.
Au revoir.
On va marquer une courte pause. Chloé, vous restez avec nous car nous avons Élodie qui a à nouveau une question à vous poser. Ce sujet des chiens, les patrons à la maison, fait vraiment débat aujourd'hui sur Sud Radio. Allez, on se retrouve dans quelques minutes.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
Et c'est un plaisir de vous accompagner chaque samedi matin pendant une heure pour parler de nos animaux de compagnie et de faune sauvage. Dans quelques instants, vous découvrirez une association française qui se bat pour offrir un nouvel avenir beaucoup plus gai, beaucoup plus libre à 4 tigres. On vous racontera tout ça. Mais tout de suite, il est question de nos chiens, ces chiens qui sont le patron à la maison. Pour nous aiguiller, pour nous donner des conseils très pratiques, j'ai le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui de Chloé Fesch, éducatrice canine. Et nous allons donner la parole à Élodie qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Élodie, vous avez, je crois, deux chiens à la maison. Racontez-nous le problème.
C'est ça. Alors, j'ai un Dogo croisé boxer qui a un an et cinq mois.
Oui.
Et j'ai un Jack Russell qui va avoir 8 ans.
D'accord.
Et en fait, mon Jack Russell a une sale habitude depuis qu'il est tout petit. Hein, et j'ai déjà essayé beaucoup, beaucoup de choses pour le faire cesser ça. C'est qu'en fait, dès qu'on croise un chien qui apparaît dans son champ de vision, il aboie, mais non-stop.
D'accord.
Donc, si une personne est là et il reste à discuter avec quelqu'un d'autre pendant 10 minutes et que la route est très longue, on va dire, pendant 10 minutes, il va aboyer. Donc,
ah oui.
Du coup, il est en train de faire que le plus jeune est en train de le recopier.
D'accord. Mmh. Donc, double problème de comportement, celui du Jack Russell qui aboie sur les autres chiens et finalement son copain boxer. Comment s'appellent vos deux chiens, Élodie ?
Alors, il y a Iron et Booba.
Iron et Booba. Okay. Et Booba, j'imagine que c'est le boxeur.
Non, c'est le Jack Russell.
C'est le Jack Russell, bon. Alors, Iron et Booba, donc en gros, s'excitent l'un l'autre. Chloé, qu'est-ce que l'on peut... Ouais. D'abord, comment vous analysez ces comportements et qu'est-ce que l'on peut conseiller à Élodie ?
Ouais, alors c'est un comportement qui est assez courant, j'ai envie de dire, au niveau des chiens. Déjà, bon, on va plutôt se concentrer sur le Jack Russell parce que si on arrive à faire passer ce comportement, l'autre en fait va tout simplement aussi diminuer ce comportement. Donc, faut pas trop tarder parce que c'est vrai qu'il faudrait pas que ça s'installe chez le deuxième chien, sinon faudra faire exactement la même chose pour le deuxième chien. Déjà, ce que je recommanderais, je sais pas si c'est le cas, mais je pense que ça ne l'est pas, c'est que quand le chien est en aboiement, j'imagine qu'il est en tension sur sa laisse, ou la laisse est complètement détendue, il est statique et il aboie.
Non, la laisse est détendue, il est statique et il déjà.
D'accord.
Par contre, il a tendance, si l'autre personne se rapproche, là, il va comme charger, quoi.
Il va tirer comme un fou sur sa laisse.
D'accord.
Mm-hmm.
Ok. Donc, moi, il y a vraiment souvent le fait que la laisse soit un petit peu en tension qui amène le chien à être dans la frustration et puis il va se mettre à aboyer. Si vraiment il reste immobile et qu'il aboie, ça peut être aussi qu'il a... Alors, en fait, il faudrait vraiment comprendre pourquoi il aboie. Est-ce que ça l'inquiète un petit peu et puis il veut pas que les gens s'approchent? Il a compris qu'en ayant ce comportement, finalement... on le laissait tranquille. Donc, si c'est ça, il faudrait vraiment travailler sur la socialisation, quoi, lui montrer qu'en fait, ce qui l'inquiète est plutôt un élément positif, au final, plutôt cool.
C'est quand même assez fréquent chez les Jack Russell, Chloé,
ce type de
comportement.
Alors, c'est des chiens qui vocalisent assez vite quand il se passe quelque chose, donc c'est vrai que ça devient vite quelque chose qu'on observe très souvent. Donc, il faudrait vraiment comprendre d'où vient l'aboiement. Est-ce que c'est parce qu'il est en stress et qu'il ne veut pas que Alors, c'est sur les humains ou c'est sur les autres chiens qu'il aboie juste ?
Sur les autres chiens.
Sur les autres chiens. Sur les humains, il n'y a pas de problème ?
Non, en règle générale, non.
D'accord.
Après, il ne laisse pas approcher, mais... Enfin, dans le sens où il est quand même craintif, mais il n'aboiera pas forcément sur quelqu'un qui passe à côté de lui, quoi.
Ok, je comprends. Ok. Donc là, il va vraiment falloir travailler sur cette socialisation, c'est-à-dire sur le fait qu'il soit un peu craintif, parce qu'en fait, le problème vient de là. C'est-à-dire qu'il a une émotion, il n'est pas à l'aise, et sa façon de le gérer depuis X années, c'est d'aboyer, c'est de réagir comme ça. Donc, il faudrait lui donner une autre porte de sortie. Moi, il y a deux choses que je mettrais en place. La première, même si c'est pas forcément pratique au quotidien, mais ça fonctionne assez bien, c'est que quand le chien manifeste ça, qu'on lui montre qu'on met de la distance, donc on recule, on va littéralement reculer de ce qui l'inquiète, pour que vraiment il comprenne que, en fait, je suis pas à l'aise, mon maître l'a compris, et il me met plus loin. Ce serait un peu comme, je sais pas si vous avez peur d'une araignée, vous allez chercher à mettre une distance avec cette araignée. Vous n'allez pas forcément vous rapprocher, puis si vous êtes à côté, vous ne serez pas super à l'aise. Donc, oui, vraiment chercher à reculer. Et après, on peut même envisager d'apprendre au chien à vous dire clairement, là, ça va pas le faire, il faut que je recule. Donc, c'est un peu le principe c'est ce qu'on fait en medical training, par exemple, c'est un peu du consentement. C'est qu'on peut vraiment envisager d'apprendre au chien un comportement. Par exemple, moi, j'ai un de mes chiens chez qui je l'ai appris quand je suis sur le terrain et qu'il a envie d'être tranquille parce que les autres chiens, normalement, l'irritent. Il va se mettre sur un tapis que j'ai déposé préalablement sur le terrain. Et quand il est sur ce tapis-là, c'est signal pour moi qu'il faut que je le rentre. Mmh. Donc ça, c'est vraiment de l'éducation. Et ça donne au chien une autre solution pour dire « c'est pas OK pour moi ». Au lieu de « j'aboie », et puis au final, je ne sais même plus pourquoi j'aboie. Et ça devient un réflexe, et puis tout le monde se met à le faire.
Mais là encore, on comprend bien, Chloé, que tout ça, ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut être aidé par un professionnel pour éviter de renforcer les mauvais comportements.
Oui, c'est ça. Et parce qu'il y a aussi le fait que quand c'est un comportement qui est là depuis longtemps, il faut imaginer que ça devient presque une habitude pour le chien, c'est sa façon de réagir maintenant. Mmh. Donc il y a forcément un travail qui va prendre, encore une fois, ça se fait pas... Alors on aura des effets sur la première séance, on va déjà voir des choses, mais pour avoir quelque chose qui s'installe, il faut quand même un peu de temps, et pour cette régularité, le mieux c'est d'être coaché. C'est un peu comme pour nous, si on veut faire du sport, si on a un coach qui vient, et puis qui nous incite, et puis qui nous dit le truc, puis qui nous reprend... on va vraiment récupérer cette nouvelle chose comme étant une habitude.
Ça
alors que si on doit
efficace.
Faire un peu tout seul,
bien
des
sûr.
Fois c'est un peu compliqué. Ouais.
Eh bien voilà, Élodie, essayez de trouver quelqu'un, un professionnel sérieux à côté de chez vous qui vous aide. Il n'y a pas forcément besoin de nombreuses séances, ça ne va pas forcément vous coûter très cher. C'est juste que ça va vous aider à mettre en place les bons comportements. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé le numéro de Sud Radio. Et très bon week-end à vous, Élodie. Chloé, merci également pour toutes ces explications extrêmement précises, complètes, imagées. On adore. Et vous pouvez retrouver, très chers auditeurs de Sud Radio, toutes les infos que vous souhaitez avoir sur le comportement des chiens et sur les éducateurs sur le site de Chloé Fesch, Cani d'Élite. Voilà, merci Chloé.
Merci
bon
beaucoup.
Week-end à vous.
Bon week-end
également.
Merci.
Allez, tout autre sujet. Nous allons maintenant parler de très gros félins puisque nous allons parler de tigres dans notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage.
Merci Frédéric Geffroy d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio.
Oui, allô ?
Oui, Frédéric, on vous entend très bien.
Oui, bonjour Natacha, merci de
m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur d'une association qui s'appelle Planète Tigre, une association française. Et vous allez nous raconter une sacrée histoire. Vous avez été sollicité pour sauver d'une misère incroyable 4 tigres qui ne sont pas en France, qui sont en Argentine.
Tout à fait, oui. En fait, notre équipe a été informée du sort de 4 tigres du Bengale qui ont été abandonnés par un circassien dans un train. Alors, c'est pas récent, il a abandonné ses animaux en 2007. Et il les a abandonnés sur le terrain d'un petit agriculteur qui est éleveur d'âne à San Luis, à peu près à 1000 km de Buenos Aires, en lui promettant de venir les récupérer. Et puis finalement, depuis 2007, il attend. Et puis voilà, la conjoncture, la situation est de plus en plus dramatique pour ces animaux.
Alors, comprendre la situation, vous m'avez transmis des photos que j'ai pu voir de mes propres yeux.
Oui.
C'est assez hallucinant puisqu'on voit un wagon de train désaffecté et ces 4 animaux sont à l'intérieur en attente depuis 2007.
Voilà. Alors, il y en a 2 qui travaillaient dans un cirque. Ensuite, il y en a 2 autres qui sont nés en captivité, qui sont nés dans le wagon, là, dans
D'accord.
les photos que je vous ai transmises. Mmh. Et si vous voulez, alors c'est un train, c'est un wagon en fait, hein, c'est un wagon de train qui est baraudé avec du bois, etc. Mais par contre, ils sont au gré des intempéries, ils sont à la chaleur, au vent, à la pluie, etc.
Oui, puis ils ont quelques mètres carrés pour se mouvoir dans un état...
Ils ont à peu près 7 mètres carrés par tigre, sachant qu'un tigre, c'est à peu près 1000 mètres carrés en milieu naturel, donc c'est un peu compliqué.
Dans un état de saleté invraisemblable.
Alors, si vous voulez, on a de la chance, c'est que l'agriculteur, tant bien que mal, les nourrit toutes les semaines.
Enfin, de la chance, préciser comment il les nourrit, c'est une chance pour lui.
Il est éleveur d'âne, hein, ce monsieur, donc il leur donne un âne toutes les semaines en nourriture. Et si vous voulez, le problème, c'est qu'il ne nettoie pas les cages.
Mm-hmm.
Donc, il y a des carcasses d'animaux qui sont encore à même le sol. Il y a des excréments, etc. C'est vraiment dramatique. Vous avez vu les vidéos, c'est vraiment complexe. Il faut vraiment qu'on sorte ces animaux de cet enfer et qu'on les mette dans un milieu un peu plus sain et naturel, entre guillemets.
Donc, vous avez été sollicité... Parce parce qu'on se dit mais pourquoi cette association française s'occupe de ces quatre tigres en Argentine? Il y a peut-être d'autres choses à faire à côté de chez nous. Oui, très certainement, mais comme vous êtes un spécialiste des tigres, on est venu vous chercher pour aider et sortir de là ces pauvres animaux. Puis en plus, ça évitera de tuer des ânes pour les nourrir, donc comme ça fera une pierre de coup, c'est quand même, c'est aussi une horreur absolue. Alors, quel est le projet, Frédéric, avec ces quatre tigres? Que souhaitez-vous faire? Et bien sûr, on va essayer de solliciter aussi nos auditeurs de Sud Radio qui peuvent vous aider dans ce projet.
Alors écoutez, ouais, c'est vraiment très complexe. En plus, on est en période Covid, donc ça rend le projet un peu plus onéreux. Donc en fait, le but, c'est de transférer ces animaux dans un sanctuaire où ils seront en semi-liberté, que nous avons trouvé en Afrique du Sud.
Qui donc, n'est pas une région normalement destinée à accueillir les tigres, mais c'est parce que c'est un sanctuaire pour faune sauvage.
Tout à fait. En fait, Ubuntu est un sanctuaire qui est géré par Park Jorgen, et en fait, il récupère les animaux justement qui ont été saisis, qui ont eu une vie, disons, un peu particulière et souvent malsaine.
Mmh. Donc votre projet, c'est de sortir ces quatre tigres de leur wagon et de les transférer en Afrique du Sud. Tout ça nécessite, j'imagine, une logistique absolument colossale.
Alors actuellement, on estime le projet à 100 000 euros environ. Alors il y a la construction des cages, bien sûr, avec des normes pour les transports aériens. Donc on a de la chance, on a une société de Bordeaux qui va nous offrir les cages. Donc j'ai eu cette nouvelle hier.
Donc, d'accord, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour.
Voilà. Ensuite, donc on va récupérer les animaux à San Luis, sur Johannesburg. Johannesburg, on a encore après 24 heures de camion pour transporter ces animaux jusqu'à Cap Western, donc où ils seront accueillis.
Voilà, parce que le refuge est à proximité du Cap, donc effectivement, l'Afrique du Sud est un immense pays, et donc ça veut dire aussi beaucoup de kilomètres derrière de transport en camion. Tout ça pour terminer dans un endroit où ils vont avoir une vie presque, entre guillemets, normale, de semi-liberté.
C'est ce qu'on espère. Donc déjà, j'espère que le transport va bien se passer, parce que ces animaux, quand même, sont dans un état physique un peu fatigué. On a dépêché une équipe de vétérinaires de Buenos Aires pour se rendre sur place il y a à peu près un mois. On a fait des prélèvements de matière fécale, etc. On a fait des analyses de sang. Bon, ils semblent être en état. Bon, il va falloir qu'on les remette quand même remettre sur pied pour qu'ils puissent supporter ce voyage. Mmh. Et après, effectivement, on est en train de faire construire des enclos. Donc c'est pareil, c'est un coût. On fait construire des enclos. Ils ont à peu près 2 hectares pour 2 tigres.
D'accord.
Avec des bassins naturels, etc. Enfin, voilà, ça va être un changement de vie complet, quoi. C'est génial. Si on réussit vraiment à faire ce projet, ça va être un truc vraiment magnifique.
Alors, ce projet, il est absolument incroyable. On a bien compris que cela coûtait cher. Donc, vous avez lancé une cagnotte sur un site de crowdfunding, c'est Given Again.
Oui,
est-ce que vous pouvez tout simplement expliquer aux auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient vous aider? Vous aider, ça peut être apporter quelques euros. En fait, plus on est nombreux à contribuer et plus on a une chance de voir ce transfert aboutir. Alors, comment on fait pour trouver votre cagnotte, Frédéric?
Alors, c'est facile. En fait, on a créé un site. Alors, on est une équipe de communication qui est extraordinaire avec que des bénévoles en plus. Donc, je tenais vraiment à les remercier. Et si vous voulez, on a créé un site internet qui est www.traintigers.com, et ensuite vous avez l'explication, toutes les news, les podcasts.
Alors, train comme train, en prononçant en français, tigers comme tigre, excusez-moi, mais je traduis pour que tout le monde comprenne bien comment on vous trouve, et rescue, donc sauver les tigres de ce train, voilà la traduction littérale. Ça fait beaucoup rire Maxime, mon réalisateur. Ben oui, mais Maxime, je ne suis pas fluente, c'est ça que vous voulez dire. Bon, donc voilà, on peut vous aider, on peut contribuer en donnant quelques euros. Je précise que l'association Planète Tigre est une association sérieuse, qu'elle va fêter ses 10 ans en juin, que chaque euro donné sera un euro donné pour le projet en question et pas pour faire autre chose, et que vous êtes tous bénévoles autour de ce projet.
Tout à fait. Et donc, je tenais vraiment à préciser, il y a un compte bancaire qui a été fait pour ce sauvetage, donc tout est vraiment transparent, on peut donner tout est à disposition. Et je tenais à signaler, parce que moi, je travaille notamment en Asie, c'est vraiment un cas vraiment particulier où j'ai été sollicité, j'ai répondu présent, parce que, bon, ma vie, c'est de sauver des tigres, et c'est vrai que là, c'est vraiment un projet, en cette période de Covid, cette période qui est vraiment très difficile, c'est de mettre un peu de chaleur et un peu d'humanité, et puis de...
Et on sauve des vies, tout simplement, on redonne un contexte de vie normal à ces animaux. Alors, la date du transfert a été fixée au 6 septembre, mais à condition que les fonds soient levés.
Tout à fait. Voilà, on a 100 000 euros à récolter, donc tous les partenaires, les sponsors, tous ceux
voilà,
qui
les entreprises sont aussi les bienvenues, évidemment,
bien sûr, hein,
pour
bien sûr,
tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Eh bien, merci beaucoup Frédéric.
Merci beaucoup Natacha, je vous remercie de votre écoute. Et,
c'est
et
bien normal, nous sommes là pour ça et Sud Radio est là aussi pour aider tous ceux qui font quelque chose en faveur des animaux, c'est la vocation de cette émission. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes. Il sera question de Matou.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio Vos Animaux. Question veto.
Et la question veto est posée cette semaine par Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Vos Animaux. Vous avez une question donc à me poser. Je suis tout oui.
Disons que je vais récupérer, enfin accueillir chez moi une minette qui fait partie d'un trio, mais qui en fait est un petit peu la maltraitée d'une des trois.
Aïe.
Donc voilà, bon, c'est pas méchant, mais bon, on sent qu'il y a quand même un petit malaise par des pipis intempestifs, pas forcément d'elle, mais de l'autre.
Oui.
Donc c'est un trio qui est chez ma fille, qu'elle a récupéré. Donc voilà, par contre, là où elle est, c'est au milieu des champs, il n'y a pas beaucoup de bruit. Moi, j'habite près d'un boulevard et c'est une maison à étage. Alors ma question, c'est est-ce que je dois mettre deux litières, une à l'étage et une au rez-de-chaussée? Et qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle s'habitue facilement? Par contre, elle me connaît bien.
D'accord. Donc, vous n'allez récupérer qu'elle, on est bien d'accord, Elisabeth.
Ah, oui,
hein.
Oui, c'est un peu le souffre-douleur. Donc,
ouais.
Bon, voilà.
Alors,
moi,
écoutez,
j'ai perdu la mienne.
Oui.
Voilà.
Donc déjà, c'est très bien que vous la sortiez de ce trio qui visiblement ne lui convient pas. Ça
non,
arrive
pas
assez fréquemment chez les chats que certains soient le souffre-douleur d'autres
oui.
Pour des questions de tempérament, de capacité
oui.
à s'imposer, à faire respecter ses règles de vie. Donc la sortir de cet environnement, ça va lui permettre de s'apaiser, c'est une excellente chose. Mais elle ne va pas s'apaiser du jour au lendemain. Évidemment, il va falloir un peu de temps pour cela, donc il va falloir que vous soyez extrêmement patiente. D'abord, elle va devoir s'habituer à ce nouvel environnement.
Oui.
La chose positive, c'est que vous m'expliquez qu'elle vous connaît bien,
oui.
Donc ça fera déjà un point de repère pour elle. Mais dans votre nouvelle maison, au départ, ne la laissez pas sortir à l'extérieur.
Elle n'aime pas sortir, elle a peur.
Elle a peur, mais vous allez voir qu'avec le temps, elle va peut-être y prendre goût. Mais en tout cas, dans un premier temps, ne lui proposez pas du tout. Vous l'installez dans une seule pièce, pièce sécurisante pour elle, donc pas une pièce trop grande, mais une pièce où elle a quand même un regard possible sur ce qui se passe. Donc trouvez dans votre maison ce qui va lui convenir le mieux. Dans cette pièce, vous lui installez une litière de qualité. Il faut choisir d'abord un grand bac à litière.
C'est un bac
dans lequel elle tienne entièrement du bout du museau jusqu'au bout de la queue, que tendue, en diagonale. Donc vraiment un grand bac à litière. Mettez-lui des endroits où elle va pouvoir se percher, se mettre en hauteur parce que c'est sécurisant pour les chats d'avoir des endroits en hauteur. Et puis quand vous allez sentir qu'elle est bien, qu'elle est en confiance, qu'elle a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans la maison, donc au bout de quelques jours, ça peut parfois être une dizaine de jours, ouvrez les portes et laissez-la aller un petit peu partout dans la maison. À ce moment-là, moi je vous conseille de lui mettre une deuxième litière ailleurs dans la maison, en plus, en complément. Et puis vous allez voir que petit à petit, d'abord elle va se rendre compte que les chats qui lui cassaient les pieds, hein, qui l'embêtaient vraiment, ne sont plus là. Donc, elle va prendre confiance. Si vous voyez qu'il y a des choses qui continuent à lui faire peur, laissez-la petit à petit s'habituer. Ne la forcez jamais, en fait. Ça ne sert à rien. Et vous allez voir que, vraiment, ça devrait la sécuriser très rapidement, de se rendre compte qu'enfin, elle est dans un environnement où personne ne vient l'embêter. Voilà. Donc, plusieurs litières dans la maison. On y va progressivement et je pense que si l'on procède ainsi, ça devrait bien se passer.
Est-ce que je dois ramener elle a un chiffon, enfin une serviette sur laquelle elle est très très souvent chez ma fille, est-ce que je dois la prendre?
Alors oui, ça peut être vraiment une excellente chose parce que ça va lui permettre de trouver un point de repère, quelque chose de sécurisant, sur lequel elle a ses odeurs. Et puis, si jamais vous voyez qu'elle a besoin d'un peu d'aide, je ne sais pas dans quelle région vous habitez, Elisabeth, dans le Gers. Vous pouvez aussi avoir recours à de l'homéopathie et à de l'acupuncture qui fonctionnent très très bien sur les cas de stress chez les chats. Il vous faut trouver un vétérinaire qui pratique dans votre région ces médecines. Mais alors, ça peut vraiment être d'un confort et d'un appui énorme pour votre chatte, pour l'aider justement à s'habituer progressivement à tout cela.
D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup.
Voilà, merci beaucoup Elisabeth.
Et merci pour votre émission.
Passez un excellent week-end.
Ben de même. Merci à vous, au revoir.
Allez, on va maintenant passer à notre séquence « C'est votre histoire » où je vais vous parler d'un petit livre qui s'appelle « Petit traité de chat-gesse ».
Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire.
Je devais recevoir Brigitte Bullard-Cordeau. Malheureusement, elle n'est pas avec nous, on n'arrive pas à la joindre, mais je vais vous parler de cet ouvrage parce que c'est un ouvrage absolument passionnant sur les chats. Ça s'appelle donc « Petit traité de chat ». Jess, j'ai du mal à le prononcer parce qu'évidemment, il faut avoir un petit chat sur la langue. Dans ce livre, Brigitte nous explique à quel point il est vraiment essentiel de regarder son chat pour se sentir bien. Vous allez voir que en découvrant son ouvrage qui est édité aux éditions Hachette, il est possible, vraiment en observant son chat, d'avoir un confort de vie absolument incroyable. Grâce au chat, grâce à l'imitation en fait de leur comportement. D'abord, les chats sont des animaux qui sont d'une souplesse absolument hallucinante. Et c'est vrai que lorsque l'on observe nos chats faire des étirements, faire un tas de gestes avec leur corps, on les envie et on peut vraiment s'en inspirer pour faire du yoga. Et puis Brigitte nous explique aussi un tas de choses sur les chats qui permettent parfois de combattre des idées reçues. Par exemple, les chats qui ont peur de l'eau. Oui, beaucoup de chats ont peur de l'eau, mais pas tous. Il y a des races de chats qui n'ont absolument peur de l'eau et au contraire qui s'accoutument vraiment très très bien de tout cela. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui donc d'accueillir Brigitte Bullard-Cordeau que nous avons retrouvée au standard de Sud Radio et ça va être plus facile de parler de son ouvrage en sa compagnie. Bonjour Brigitte.
Bonjour Natacha.
Brigitte, nous vous avions perdu et c'est vrai que de parler de votre ouvrage sans vous, c'est un petit peu plus compliqué. Mais grâce à vous...
un petit problème.
C'est pas grave. Grâce à vous, on va pouvoir s'inspirer de nos chats pour bien vivre au quotidien et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment.
On en a besoin en ce moment et toujours d'ailleurs parce que le chat vraiment est d'une compagnie très agréable et très très performante, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup à ses côtés. C'est pourquoi on a inventé ce mot au 21e siècle, le mot de sagesse. Parce que franchement, il peut être notre exemple dans notre conduite, dans notre comportement et dans notre inspiration aussi. Il est vraiment extraordinaire. Il suffit de le regarder vivre et puis aussi de voir ses postures, ses gestes et franchement...
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'attitudes ou de comportements de nos chats qui devraient nous inspirer pour mieux vivre au quotidien ?
Oui, par exemple, quand on le voit immobile, en train de méditer, en train de réfléchir à on ne sait quoi, il est perdu dans ses pensées, je pense que là, il est dans la sérénité, il se repose. Et nous, on devrait faire pareil de temps en temps, prendre des moments de sagesse, quoi, de repos, de répit. Comme il le fait, il est devant la fenêtre et il regarde comme ça, on sait à quoi il pense, il est dans ses rêves. Moi, je trouve que ça peut nous enrichir énormément de lâcher prise un petit peu.
C'est vrai que c'est peut-être le plus difficile pour nous, êtres humains, c'est d'être dans l'instant présent, de ne pas laisser nos pensées nous emmener vers ce qu'on a à faire, vers ce qu'on devrait faire, vers ce qui nous tracasse dans notre journée, mais avoir des temps de pause. Et ça, les chats savent parfaitement le faire.
Ils le font à tout moment en plus, c'est-à-dire après avoir beaucoup joué, avoir joué comme des fous, parce qu'ils ne sont pas seulement immobiles évidemment, ils jouent beaucoup, et surtout quand ils sont chatons, c'est d'ailleurs, ils sont très très excités quand ils sont petits, et ils deviennent bien plus sages plus tard, parce que leur maman d'ailleurs, la mère chatte, est toujours en train de, souvent en train de les reprendre quand ils sont un peu trop trop coquin ou etc. La mère chatte apprend beaucoup aux petits et on finit par avoir un animal. Enfin, si je dis un animal, c'est même pas le mot, c'est un ami, quoi, je crois. Un ami de toute pièce, hein, franchement, qui est toujours à nos côtés. Et pour cela, il faut vraiment essayer de le comprendre, de savoir connaître ses attitudes. Là, dans ce livre, on apprend un petit peu toutes les attitudes, les postures, à quoi elles ressemblent, quel est leur sens, etc. Parce que vivre avec un chat, c'est d'abord essayer de le comprendre. Et si on ne fait aucun effort, le chat va être buté, quoi. Il va être très très mal dans ses poils, donc c'est
oui,
même pas la peine.
Il sera un grand incompris et à ce moment-là, il sera extrêmement malheureux.
Très malheureux. Avec le chat, il faut vraiment, je crois qu'il faut essayer d'être lui un petit peu. Oui. C'est ça la sagesse, comme on dit, et entrer un petit peu dans sa tête, savoir ce qui se passe. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut bien comprendre aussi son anatomie.
Montre votre ouvrage, Brigitte, pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux en vidéo, Le Petit Traité de Chat-Gesse de Brigitte Bullard-Cordeau, et c'est aux éditions Hachette. Brigitte, ça a été extrêmement court ce temps d'échange, car malheureusement, on n'a pas pu vous avoir dès le début de cette séquence.
Désolée.
Mais je vous en prie. On vous souhaite à tous, très chers auditeurs de Sud Radio, un excellent week-end sur notre antenne. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.